Vous venez de sortir, il y a déjà quelques semaines, un nouveau roman qui s'appelle « Les liaisons périlleuses ». Et on va aller faire un petit tour du côté du Mont-Blanc. Alors, il y a déjà quelques années, effectivement, à une époque où c'était la conquête du Mont-Blanc, et celle-ci de conquête, elle est faite par des femmes. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous intéresser à cette aventure de la conquête du Mont-Blanc ?
Bonjour Michel. Eh bien, parce qu'en fait, je faisais des recherches sur le rôle et la place des femmes en montagne, et je me suis rendu compte que celles qui avaient accompli des prouesses physiques ne figuraient pas dans les livres. Elles avaient été oubliées et même parfois effacées. Je ne trouvais pratiquement rien, notamment sur la première femme qui était parvenue au sommet.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Jacques Balma en particulier, enfin des premiers conquérants, l'impossible.
Tout à fait.
On a vu des photos où on les voit grimper avec des échelles, tout ça, mais ça peut-être un peu plus tard.
C'est ça, c'est bien après, en fait. Et Balma, en fait, avait accompagné justement une fille d'auberge de Chamonix. Mais si vous cherchez dans les ouvrages, elle n'y est pratiquement jamais. Et si jamais elle y figure, c'est son nom ou une ligne. Et en plus, il est toujours précisé qu'elle a été poussée, aidée, portée, tirée. Enfin bon.
Ça, c'est les hommes qui veulent s'attribuer.
Alors, il y avait peut-être une part de vrai parce qu'elle-même, a priori, disait, parce qu'on a sexe et aussi une timidité assez maladive, on n'a pas récolté son témoignage.
Alors qu'elle a une esplanade à son nom en haut à Chamonix. Hein.
Voilà, maintenant récemment, en effet, on peut trouver des traces d'elle. Il y a aussi une école maintenant qui porte son nom depuis peu de temps. Mais dans les livres, c'est une autre histoire. Elle ne figure pas en fait, figure une autre héroïne qui elle donc s'est attaquée au Mont-Blanc, mais 30 ans plus tard.
Alors dans votre roman, on retrouve ces personnages naturellement. Donc, c'est un roman, on a un petit peu changé les noms. Et les personnages, mais ils sont inspirés de personnages qui ont réellement existé, bien sûr.
Oui, tout à fait. En fait, Kittory Darcy et Pernette Crowe, ce sont les héroïnes des liaisons périlleuses. Ce sont deux femmes. Les personnages sont librement inspirés, et librement, c'est le mot important, d'Henriette d'Angeville donc, et de Marie Paradis. Et en revanche, les autres personnages ont existé comme Jacques Balma, mais aussi ce médecin de Genève qui a rédigé une ordonnance pour monter au Mont-Blanc, qui est assez cocasse. Et puis, on y croise aussi George Sand, par exemple, ou Alexandre Dumas, Victor Hugo. Tous ces gens, en fait, étaient présents à Chamonix.
Donc, ils sont venus, effectivement, attirés par ce côté mythique, ce mont maudit d'ailleurs, comme on l'appelait à l'époque, enfin en tout cas dans votre roman, parce que
c'est ça.
Il était mystérieux et semble-t-il assez dangereux.
Oui, ça, c'était un sommet qui faisait peur, personne n'était jamais allé jusqu'au sommet. Et puis il y avait ce glacier qui à l'époque était absolument gigantesque, qu'on appelait Glacier des Bois, qui ensuite a été renommé Mer de Glace. Donc tout ça c'était très effrayant bien sûr. Et aussi, à l'époque, à Chamonix, on n'avait pas vocation à grimper les sommets. Voilà.
Il n'y a pas d'utilité particulière
à y aller. Non, pas du tout.
Oui, les gens étaient agriculteurs.
C'est ça.
D'autres métiers, bien sûr.
C'était des paysans de montagne, en fait, qui vivaient d'ailleurs assez chichement. Et puis, qui certainement souffraient aussi beaucoup des rudes conditions montagnardes de l'époque, puisqu'on est quand même dans le petit âge glaciaire encore. Donc, les glaciers avancent, ils avalent des hameaux, des villages. Donc, la montagne est quand même très menaçante.
Ce qui n'est plus le cas maintenant, malheureusement.
Non, malheureusement, oui, là, c'est un recul terrible.
Et la Savoie n'était pas française à cette époque-là. C'est important aussi de le rappeler.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que Kittory Darcy, quand elle veut se rendre à Chamonix, elle est obligée de demander un passeport, en fait. Parce que, bon, elle est française et elle est établie à Genève. Mais à ce moment-là, Chamonix appartient au royaume de Sardaigne. Donc, elle ne peut pas pénétrer sur le territoire comme ça. Il lui faut une autorisation. Bon, aujourd'hui, on a du mal à le figurer.
Oui.
Ouais. Mais voilà, ça demandait un peu de préparation.
Bien sûr. Ouais.
Et puis après, quand elle arrivait sur place, bon là, il se passait quand même quelque chose d'extraordinaire parce que la route pour aller à Chamonix n'était pas une route.
C'était un chemin. Ouais.
Ah, c'était un chemin. Mmh. À mi-chemin, il fallait démonter les chars pour passer certains endroits ou des ponts.
Ça m'a beaucoup amusé, effectivement.
Ouais, il les démonte complètement, hein, comme un jeu de Lego pour les remonter un peu plus loin parce que ça passe pas.
Et Genève-Chamonix, ça prenait un peu de temps quand même.
Ah oui, c'était compliqué. Hein. Déjà, il fallait s'arrêter à mi-chemin pour dormir dans une auberge. Et puis ensuite, la deuxième partie du chemin, c'était vraiment périlleux. Ça se finissait souvent à dos de mulet. Et là, il y avait un contraste extraordinaire, c'est que quand ils arrivaient à Chamonix, d'un seul coup, il y avait des hôtels qu'on pourrait qualifier de luxe. Oui. Parce qu'en fait, la haute société de l'époque, et notamment les aristocrates anglais, doivent de passer à Chamonix en été. Donc, on y développe le tourisme, qui vient du mot anglais tourisme, en fait, que Stendhal venait de faire entrer dans la langue française l'année précédente. Absolument. C'est tout nouveau, c'est un concept qui n'existait pas, qui est développé à ce moment-là. Et on voit arriver des hôtels somptueux, avec beaucoup de services, parce qu'on reçoit les grands de ce monde. Et il y a un contraste saisissant avec nos paysans de montagne qui, eux, vivent encore dans la même pièce que leurs bêtes.
Oui, donc on mesure mieux le chemin parcouru grâce à ce roman. Alors, il se passe naturellement beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a à la fois l'histoire de cette comtesse qui a quand même pas mal de mésaventures. Là aussi, on n'en dira pas plus, mais effectivement, il lui arrive plein de choses. Et puis, en parallèle, cette paysanne qui, elle aussi, a bien des malheurs. Hein.
Oui, voilà. Eh bien, Kittery Darcy, donc, certes, c'est une aristocrate et en effet, par rapport à Pernette Crowe, elle a des moyens financiers, mais elle se heurte au fait qu'une femme de son rang, en aucun cas, ne peut aller faire une prouesse physique. Et puis, elle ne peut pas non plus organiser ça, monter avec six guides, six porteurs, la seule femme en jupe, qui plus est, etc. C'est inconcevable. Mais bon, elle a soif de liberté, vraiment. Elle a été élevée un peu comme ça, d'ailleurs, avec ses frères. Hein. Elle dévalait déjà un peu les pentes autour de chez elle.
Elle était un peu garçon manqué.
Elle était un peu garçon manqué, malgré sa jupe à crinoline. Mais elle va s'entêter et elle veut absolument essayer d'aller sur le toit de l'Europe. Et puis, bon, évidemment, elle se heurte à beaucoup d'obstacles et puis aussi beaucoup de moqueries. Voilà, elle va avoir du mal à monter son expédition. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire par rapport au vrai du faux, c'est que Henriette d'Angeville et Marie Paradis, donc qui ont vraiment existé, elles se sont croisées véritablement dans la vraie vie. Une fois, en fait, quand ils vont fêter le retour d'Henriette d'Angeville. Et c'est ce que j'ai voulu développer dans le roman. Et donc là, c'est ma touche.
C'est un roman.
C'est un roman, voilà. Ma part de fiction, c'était de développer, en fait, la relation et ce qui aurait pu les lier, et notamment par rapport à d'autres personnes de leur famille.
Alors, c'est un roman, mais comme toujours avec vos romans.
C'est le sixième.
Sixième, effectivement. C'est toujours très, très bien documenté sur la vie de l'époque jusqu'au choix des mots, je trouve. On a l'impression d'utiliser une langue un peu de l'époque quand même.
Je travaille beaucoup sur le vocabulaire, en effet. J'aime bien utiliser des mots dont l'usage est un peu désuet ou vieilli. Je trouve que ça redonne bien le contexte de l'époque et puis des mots de chez nous aussi.
Alors une chose m'a étonné quand même, si je peux me permettre.
Oui, je vous en prie.
C'est l'utilisation des noms de ceux qui entourent les chamoniards. Alors, qui ont des noms d'acteurs contemporains.
Oui.
pour quelles raisons, justement?
Alors, bah déjà parce que je les adore.
Oui, ça j'ai pensé.
Voilà, c'est Ventura, c'est Blier, Bourville, Fernandel, etc. Ouais. Ils ont des gueules, au sens noble du terme, vraiment.
Ouais, bien sûr.
Et quand vous voyez les photos des guides de l'époque...
Ils leur ressemblent.
Oui, ils leur ressemblent, ce sont de vrais acteurs, ils ont une allure folle,
ouais,
ils montent en costume, hein, avec une veste cintrée, et puis aussi beaucoup de caractère, beaucoup de courage, voilà, beaucoup de répartie. C'est un clin d'œil, c'est ce que permet le roman justement, hein, c'est de croiser les époques.
Oui, bien sûr. Oui.
Et c'était de refaire cette espèce de groupe invraisemblable de copains comme ça, qui sont très solidaires.
Oui, plutôt que d'utiliser des noms de véritables chamoniards. Mais on rappelle qu'on est dans une fiction, naturellement. Fiction, quand même, qui est très documentée, puisqu'on découvre ce qu'a été cette conquête du Mont Blanc, avec toutes les craintes, hein, puisque une femme qui aurait éventuellement attendu un enfant était sûre de ne pas pouvoir accoucher si elle avait été dans les montagnes. Enfin, il y avait des trucs invraisemblables.
Oui, c'est ça. On pensait que ça écrasait les organes et que ça réduisait la matrice à néant et que ça rendait les femmes stériles. On pensait aussi qu'elles n'étaient pas capables de faire un effort physique sans y laisser la vie.
Oui,
donc, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de personnes essayent de l'en dissuader parce qu'ils sont persuadés que ce n'est pas possible de monter une telle altitude pour une femme.
Oui, parce qu'il y avait des médecins qui disaient ça à cette époque-là.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
Une caution, j'allais dire... médicale qui pouvait dissuader pas mal de monde d'y aller. Mais enfin, c'était l'inconnu, tout simplement.
C'était l'inconnu, voilà. Et puis aussi le fait que, bon, malgré tout, on ne voulait pas qu'une femme monte au sommet du Mont Blanc. Parce que, voilà, d'ailleurs, la presse de l'époque s'en empare. Et certains journaux titraient que ce sommet magnifique devait être vraiment vexé, humilié d'avoir été foulé par un pas de femme.
On a fait un peu de progrès quand même.
Oui, on a bien travaillé.
Parce qu'on
partait très loin.
Alors donc ce roman, ça y est, il est dans toutes les bonnes librairies.
Oui.
Est-ce que vous avez des séances de signature de prévues, j'imagine, présence dans différents salons, peut-être dans les librairies de la région?
Oui, tout à fait. Donc samedi, il y a une rencontre littéraire, samedi 5, donc une rencontre littéraire qui est organisée à la médiathèque de Thonon à 17h. Et puis jeudi prochain, c'est-à-dire jeudi 10 mars, il y a une dédicace à la librairie Majuscule à Thonon. Et samedi 12, une rencontre littéraire au Café des Aiguilles à Chamonix avec la librairie Landru.
Voilà, alors Liaison périlleuse de Frédéric-Sophie Braise, le sixième roman paru...
aux Presses de la Cité.